Radio Galère 88.4, une émission exceptionnelle de Hockey des Cultures. Bonjour, Edgar Prato, avec Sidi Diallo en technique, qui vous propose une émission particulière de Hockey des Cultures, une émission que je produisais et animais sur ces ondes de Galère chaque jeudi de 11h à 12h à partir d'octobre 2000. Nous avons réalisé des entretiens avec des écrivains, des peintres, des poètes, des concerts. Donc nous avons rediffusé des thèmes sur la chanson française, des entretiens avec des artistes américains et bien d'autres choses. La dernière fut diffusée le 19 février 2016 et c'était la 180e. Or, en début d'année, nous avons perdu, enfin personnellement j'ai perdu un ami, un écrivain régionaliste manosquin, Maurice Chevalier, qui est passé dans le cadre de cette émission souvent fois, puisque je l'avais interviewé chaque fois que sortait l'un de ses ouvrages. Donc j'ai promis, suite à la cérémonie funéraire qui s'est passée au mois de mars, parmi les personnes qui représentaient justement la presse, de rediffuser l'une de ces émissions sur Radio Galère. Donc c'est ce que nous allons faire. Je rappelle qu'il était né à Manosque le 12 décembre 1921 et qu'il est donc né en pays Gavot, réellement gallo. Il est parti à petits pas, vaincu par le crabe sans tambour ni trompette, à l'aube du samedi 7 mars 2020 dans une triste chambre d'hôpital. Je n'en dirai pas plus, il était tout petit par la taille, mais très grand par le talent, et c'était un ami évidemment de Jean Genot. Alors il va nous parler de son enfance à Manosque, de son ouvrage, parce qu'à cette époque-là, il a beaucoup écrit, était sorti Noël traditionnel en Provence, et puis donc, voici donc cette émission de Hockey des Cultures particulières sur et avec Maurice Chevalier. Bonjour, après une année d'absence, voici la 154e émission de Hockey des Cultures sur le 88.4 de Radio Galère. En fait, une émission qui tombe bien puisqu'il s'agit de l'entretien avec Maurice Chevalier, écrivain, pour son livre Noël traditionnel en Provence, éditeur Autre Temps. Maurice Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Heureux d'être un moment qui vient complice d'un homme qui aime sa terre natale, notre Provence. Ton dernier ouvrage, Noël traditionnel en Provence, est une preuve de ton lien affectif avec elle, solide comme un olivier du terroir.
C'est beaucoup dire. Tu pourrais dire vieux comme un olivier du terroir, puisque ce fut mon anniversaire hier à 17h30 exactement. Il y avait 84 ans que je naissais.
Bravo Maurice, tu ne les portes pas. Si tu veux bien, je vais te présenter pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Ensuite, nous parlerons justement de ta jeunesse, de ta vie professionnelle. Et puis, nous arriverons dans la troisième partie à ce livre que tu as écrit l'an dernier, Noël traditionnel en Provence. Tu es né dans les années 20 à Manosque, posé en Basse-Durance, terre fertile où le torrent dompté pour l'instant par les hommes y est plus sage. C'était hier. Enfance heureuse, sans doute. Aimant la noble écriture, tu es devenu professeur de français. Jean Genot, Jean Le Bleu, cet écrivain immense pour nous, phare de la Haute-Provence, sera là pour t'éclairer et t'initier de 1941 à 1953. Tu rectifieras tout à l'heure s'il y a de petites erreurs. Puis c'est l'appel, le grand voyage vers l'Algérie, cette deuxième France alors, puis sera enseignant à Alger avec, entre autres activités parallèles, celle d'être journaliste à la Dépêche quotidienne, ce qui donnera un corps d'article en 1960, matière à ton livre « La Casbah d'Alger ». Le métier de comédien au théâtre et à la télévision te tentera un moment. Tu seras également animateur à l'ORTF et beaucoup plus tard, sur Radio Sprint FM à Marseille, tu animais dans les années 80 au Jardin des Poètes. C'est là, dans les studios de cette radio, au dernier étage d'un immeuble du cours d'Estienne d'Or, que j'ai eu la chance de te connaître. Et puis il y a l'écrivain, romancier, nouvelliste, le chaste et Théodagridé chez Fayard, le Fada, la révolte des moutons, etc. Des essais avec le magnifique Genot à Manosque, temps parallèle, prix de la Société des gens de lettres. Genot vivant, notre ami Jean Le Bleu, la Casbah, la sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui, la médecine populaire, l'ensemble chez Autre Temps. pour l'histoire de la Provence, ta contribution sera une somme érudite avec en 2001 le grand livre de la Provence, tome 1, de l'Antiquité au Troubadour, qui obtint l'année suivante le prix d'histoire et de sociologie de l'Académie française. C'est à souligner, tu ne t'y attendais pas, tu pourras nous en parler. Et après un second tome, l'Union Provence-Naples en 2003, voilà que tu nous offrais l'an dernier le livre court mais dense, Noël traditionnel en Provence, pétri dans l'argile grasse des pays des Santons, et bientôt peut-être, et là aussi tu vas peut-être m'en dire quelque chose, une suite à ta grande saga de la Provence. C'est aujourd'hui, je le signale, notre cinquième entretien en 15 ans. Est-ce que j'ai un peu condensé
Ah oui, tu n'as rien oublié. Je t'en remercie. Bon, il y a quelques petits détails, mais sans importance.
Alors, justement, avant de partir un petit peu à l'arrière vers Manosque et ta jeunesse, il faudrait que tu nous parles de ce tome que tu prépares. C'est une saga très très importante, cette histoire-là.
Oui, d'autant plus importante que c'est le troisième volume, sont de grands volumes, abondamment illustrés. Et le premier volume du grand livre de la Provence, de l'Antiquité au Troubadour, est d'ailleurs épuisé. Pas aussi épuisé que moi, mais presque, et va être réédité. Le deuxième volume était plus ciblé. C'est un volume qui parle surtout du siècle d'or d'Avignon et naturellement de la maison d'Anjou, cette époque extraordinaire où la Provence était allée en quelque sorte coloniser avant la lettre le royaume de Naples. Et le troisième volume marquera la fin de l'indépendance provençale en 1481 avec ce pauvre roi René qui a vu tous ses héritiers mourir. Et donc l'universel aragne, ce diabolique Louis XI, va s'emparer de ce que les rois de France souhaitaient depuis très longtemps, c'est-à-dire une ouverture sur la Méditerranée.
Troisième tome, troisième volume, qui ne sera certainement pas le dernier, puisqu'il va falloir continuer. Quelle est ta méthode de travail? Comment tu fais? Tu recherches? Tu lis énormément, abondamment de sources. Comment cela se passe?
Oui, bien sûr. Je te disais donc que ce troisième volume était particulièrement important parce qu'il termine la trilogie. Ensuite, eh bien, adieu vat, le sort, le créateur, ce qui tu voudras, me prête vie peut-être. Et effectivement, il y aurait matière à un quatrième volume, un cinquième ou un sixième, mais particulièrement un quatrième volume qui serait la Provence, l'indépendance dans l'interdépendance, si ouais. Tu veux, avec le Parlement d'Aix. Et puis, il y aurait beaucoup à dire au sujet de la Renaissance provençale, avec les guerres de religion, les camisards.
Tu pourrais t'arrêter à la fin de l'Ancien Régime, parce que sur Marseille actuelle, de nombreux livres ont été écrits et continuent à être publiés à l'heure actuelle. Et c'était intéressant de travailler à travers les origines donc provençales, le Moyen-Âge, qui fut si lumineux, entre parenthèses, on a dit sombre, mais qui ne l'était pas, bien entendu, et cette période clé dont tu parles.
Oui, mais j'aimerais quand même, si c'était possible, parler un peu de la Révolution, où Marseille en particulier, la Provence, ont joué un rôle prépondérant, la Marseillaise, n'est-ce pas? Et puis Napoléon Ier, et les relations difficiles, et puis la Renaissance provençale avec le Félibrige. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais aimé m'arrêter à 1914, à la mort de Mistral.
Exactement, je pensais que c'est ce que tu allais faire, début du XXe siècle. Alors Maurice, bien, puisque nous sommes en plein XXe siècle, alors Manosque avant-guerre, c'était comment, Maurice?
Ah, Manosque avant-guerre, c'était le paradis perdu. C'est le paradis perdu. Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les amis de mon âge, beaucoup sont à Paris, quelques-uns sont à Marseille, pensent comme moi, on ne peut pas arrêter ce que l'on appelle le progrès, qui n'est pas très progrès en certains domaines, mais enfin, une image, si tu veux, de mon temps, il y avait Saint-Pancras, sans Brancaille, où l'on allait chaque lundi manger le saucisson et boire le vin clairé sur la, dans l'Ermitage, et où il y avait des oliviers en fleurs qui ressemblaient à des robes de mariée au printemps avec la lavande, et où il y a maintenant des maisons. C'est-à-dire que la, la colline...
Est-ce qu'on a fait des lotissements ?
La colline, oui, même pas... ben, ce sont, si tu veux, tout a changé avec la mégalomanie d'un maire qui, au début, a fait de Manosque une ville dortoir de, pour Cadarache.
Alors... situer la période, là, sans citer le nom du...
Oh, ça remonte quand même assez loin, Cadarache. Qu'est-ce que c'était ? Les années... 50, oh, oui, 70, je crois.
70, oui.
À partir de 65, par là.
À partir de 65.
Et, bon, ben, évidemment, il y a eu un afflux d'étrangers, divers et variés, et ce qui était une bonne chose.
Mais moi, je préfère que tu me parles de cette Manosque d'avant-guerre. Alors, dis-moi, que, quelle était la ville ? De quoi vivait-elle ? Est-ce que ville qui était agricole, essentiellement ?
Mais Manosque a toujours été une ville très prospère. On ne comprend pas, d'ailleurs, et là, je suis manosquin, et je les approuve, on ne comprend pas que Manosque ne soit pas au moins sous préfecture, parce que Manosque a toujours eu... démographiquement la même importance que Digne. Digne a eu cet avantage d'être situé au milieu du département. Et tu sais que Napoléon Ier avait pris comme principe, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, de situer la préfecture au milieu du département, très exactement.
Géographiquement parlant.
Alors. Géographiquement parlant. Oui. Il fallait que, où que l'on soit dans le département, on puisse aller et venir à cheval, dans la journée, dans la préfecture. Oui, exactement.
Oui, non, mais ça, c'est logique, parce que là, nous sommes avec le département que tu aimes appeler des Basses-Alpes. Et personnellement, moi, je suis obligé des Alpes-de-Haute-Provence, puisque c'est l'appellation actuelle. Il est incontestable que Manosque, alors c'est un des départements les moins peuplés de France, nous le savons, mais Manosque est la ville la plus peuplée devant Digne, devant Sisteron, devant Forcalquier, qui je crois est sous préfecture, Forcalquier, qui est 4-5 fois moins importante.
Forcalquier, c'est tout à fait normal. Hein. C'est resté quand même la capitale historique de Raymond Béranger, les comtes de Provence et comtes de Forcalquier. Mais Barcelonnette, à la rigueur, parce que Barcelonnette, c'est l'Italie, en somme. C'est la vallée de Barcelonnette a toujours été à part. Mais Castellane, par exemple, Castellane, qui ça n'a aucune raison d'être. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont, Manosque était, puisque tu veux absolument que je te dise deux mots du Manosque d'avant-guerre, était, Giono l'a assez dit, un pays heureux. C'était les paysans de la ville. Giono le décrit très bien, d'ailleurs, le récit de son enfance. Derrière Notre-Dame, il y avait des sortes des maisons avec une remise qui donnait sur une petite cour. Et beaucoup, beaucoup de gens, sinon tous, avaient là 4 moutons, 2 chèvres, et non, souvent... un cheval que l'on appelait Bijou, un âne ou une mule, et ils allaient, les vieux avaient gardé un petit lopin de terre, et puis ils étaient très heureux, ils allaient cultiver leur petit lopin, ils revenaient, bon, c'était une autre époque, évidemment.
Non, mais alors il y avait quand même des moulins à huile, il y avait...
Oui, bien sûr.
Il y avait plusieurs marchés en ville.
Ah, ben bien sûr, oui, tout, oui. Mais ça, c'est encore vrai, hein, les marchés, les foires, c'est encore vrai. Mais pas de la même façon, si tu veux. Il y avait la foire exposition, par exemple, chaque été, qui amenait un grand concours de peuple. Il y avait surtout une autre mentalité, une autre ambiance, une autre façon de vivre. Je suis en train de pleurer sur les ruines de Jérusalem, là. Hein.
Je comprends, mais je suis suppose que sans que les gens se connaissent tous, il y avait une cordialité, les gens se
saluaient. Exactement.
Les
Exactement.
Gens papotaient le
Exactement.
Soir, en été ou pas, au pas de la porte, il n'y avait plus de communication.
C'était encore un gros village où, avec les avantages, et il ne faut pas se le dissimuler, certains inconvénients, par exemple la médisance, le bavardage, les rumeurs. Mais surtout, on était malade, les voisins venaient. Il y avait un décès dans la famille, les voisins venaient soutenir la famille. Le soir, n'est-ce pas, chacun, il n'y avait pas la télévision évidemment, chacun sortait sa chaise, se mettait sur le pas des portes et conversait. Et tandis que les jeunes se promenaient sur la plaine, un petit peu la passeggiata à l'italienne. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre.
Ça ne se passait pas spécialement à Manosque. Au panier à Marseille aussi, tout le monde,
c'est vrai.
De fenêtre à fenêtre, ou dans n'importe quel village de Provence.
C'est vrai, c'est mais à Manosque, je oui. termine, là, tu m'as branché là-dessus, tant pis, je continue. Non, je termine. Mais à Manosque, il y avait cette douceur de vivre qu'il n'y avait pas dans les grandes villes, quand même. On était sous les platanes, il passait une auto tous les quarts d'heure.
Est-ce qu'il y avait des difficultés à trouver parking ?
Non, là, certes.
Encore des charrettes, certes. Suppose.
Oui, c'est vrai que... Oui, bien sûr.
Avec des chevaux.
Bien sûr. Et les moutons. Les moutons, la transhumance. C'était merveilleux pour
ça,
nous autres.
Pour nous autres. Tout petit,
ah, tu l'as connu.
Je l'ai connu à Sisteron, mais j'imagine bien justement une voiture bloquée sur le passage de la fameuse pendant des dizaines de minutes, quelquefois. C'était des dizaines de milliers de mètres qui transhumaient, qui montaient ou qui descendaient selon les époques.
Oui, mais nous, sous la plaine, mon grand-père avait un immense jardin où on faisait les kermesses, les jeux de boules, etc. C'était une ancienne pépinière, c'était immense. Et en face, il y avait sous la plaine une grande place. C'était une aventure extraordinaire que de voir ces moutons qui venaient passer la nuit avec la petite voiture tintinabulante des bergers, etc.
Ah, là, tu remplaces Pierre Magnon, parce que j'ai lu des choses par lui qu'il te décrit très bien. Alors, l'école d'antan...
Nous avons eu la même enfance.
Bien sûr. L'école d'antan en province, tes études, ton attirance pour les lettres, l'écriture. Quels auteurs te fascinaient, alors ? D'abord l'école. Comment ça se passait, l'école?
Bien, ça se passait très... C'était encore le collège de Manosque, c'était encore très familial. Ce sont de très bons souvenirs. Mais ensuite, je suis allé continuer mes études à Aix-en-Provence. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'Aix, c'était une ville adorable. C'est toujours une belle ville, mais c'est devenu une grande ville.
Sujet de notre entretien. Alors, quels auteurs te fascinaient à cette époque-là?
Oh, ben les auteurs, dirais-je, à la mode, enfin les grands romanciers.
Nous parlons de Giono dans un instant.
Oui, ben, en dehors de Giono, il y avait Mauriac, il y avait Gide, il y avait tous les auteurs de cette époque. Et surtout les poètes. Les poètes, là, j'ai découvert les symbolistes, j'ai découvert Baudelaire, bien sûr, Verlaine, Rimbaud, et tous les poètes.
Bien. Alors, nous arrivons à tes rencontres avec Giono, votre amitié, le respect que tu portais à cet homme au regard d'azur.
Giono, je ne l'ai pas connu en tant qu'auteur, si tu veux. Je l'ai connu en tant que manosquin, parce que quand j'étais tout gosse et qu'il débutait en littérature, si j'ose m'exprimer ainsi, il passait chaque soir avec sa grande pèlerine pour aller mettre son courrier à poste.
Ben, tu étais enfant, là, à ce moment-là.
Ah oui, j'étais enfant, oui. Et ma grand-mère qui disait, « Ah, il y a Giono qui passe, il est temps de mettre la table. »
Mais c'était parce qu'il était déjà célèbre, Manosque, ou c'était parce qu'il jouait le rôle de la pendule, parce qu'il était précis.
Nul n'est prophète en son pays. Il était, pour une grande partie des manosquins, ignoré.
Ah bon.
Pour une assez grande... dans l'autre moitié, si tu veux, beaucoup le jalousaient. Et,
ça, c'est un classique. Hein,
et quand même, quelques-uns reconnaissaient son talent naissant et son génie ensuite. Non, on le jalousait aussi parce qu'on ne pouvait pas penser que le fils du cordonnier recevait des gens qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne. L'Allemagne, alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et même du Japon, des étudiants et des professeurs, je disais, mais il n'a même pas son certificat d'études. C'est vrai, il n'avait pas son certificat d'études, puisque...
Il était allé au comptoir d'escompte d'une
banque. Oui, mais il était allé jusqu'en première au collège de Manosque, à une époque où faire ses humanités, c'était quelque chose. Et puis, il n'avait pas passé le bac parce que son père était mort et qu'il fallait faire bouillir la marmite. Et il se trouve qu'il avait le même âge que mon père... qu'ils étaient au collège de Manosque ensemble, donc ils se connaissaient très bien, ainsi que beaucoup d'autres manosquins de cet âge, évidemment, puisque, je te le répète, Manosque était un gros village où chacun se connaissait, et ils avaient fait en quelque sorte la guerre ensemble, et donc, tout naturellement, je suis allé... non pas lui présenter, parce que j'ai écrit assez tôt, j'ai été piqué par la tarentule littéraire assez vite, mais je savais que j'éprouvais une certaine gêne à lui présenter mes écrits. Mais j'ai eu la possibilité, par Tide Monnier, d'aller chez lui avant-guerre, pendant la guerre et juste après la guerre. Et ensuite, je suis parti de Manosque.
Une question qui peut apparaître saugrenue, il y avait plusieurs librairies à Manosque, du temps, on va dire, de la première écriture de journaux, le Champ du Monde, l'époque du Champ du Monde. Est-ce que ces libraires-là vendaient quand même, puisqu'il y avait une certaine jalousie, beaucoup d'ouvrages de journaux manosquins?
Eh bien, il y avait tout à fait, alors là je te parle du début des années 30, il y avait une seule librairie, la librairie Vespier dans la rue Grande, il y avait plusieurs librairies, mais qui vendaient surtout des fournitures scolaires, des trucs comme ça. Mais celle-là, en plus, vendait des livres. Et puis, alors, par la suite...
Et elle mettait le serpent d'étoile en vitrine, ou pas?
Oh, pas tellement, non, pas tellement.
C'est curieux.
Pas tellement. Même. Ben non, tu sais... Puis, ce
tu
moment...
parlais d'entraide tout à l'heure, mais là, de ce côté-là, il n'y a pas d'entraide. Dès qu'il s'agit d'un poète, un écrivain,
oui, mais...
quelqu'un qui est un artiste...
Oui, mais c'était pas... On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'était une autre mentalité. D'abord, les livres valaient cher. Et les
livres brochés de l'époque.
Ah ben relativement oui. Puis les gens n'achetaient pas des livres, c'était pas dans la mentalité des paysans. Mais moi j'ai une parente qui me disait par exemple à propos de Giraud, elle connaissait très bien, elle me disait mais Giraud non, ces paysans ils ne parlent pas comme nous. Tu vois il y avait une incompréhension. Et puis, par la suite, alors, tout de même, un marchand de journaux qui s'est établi à côté du Café Glacier, qui vendait beaucoup de livres, mais de journaux en particulier, mais auprès des gens qui s'arrêtaient, des étrangers, étrangers du dehors.
Alors, tes débuts dans l'enseignement, bon, on va surtout connaître maintenant comment tu as fait le choix de vouloir modestement porter la connaissance de notre langue hors métropole. Pourquoi tu es parti en Algérie?
Oh, écoute, je pense pas que ce soit très intéressant d'entrer, c'est très ancien. Disons que... non, je n'ai pas envie de parler de ça.
Alors, la pratique du journalisme en dilettante seulement à Alger ou ailleurs? Est-ce que tu as pratiqué à ce moment-là le journalisme simplement pour le journal d'Alger dont j'ai parlé en 1960, qui a été matière pour réaliser la Casbah d'Alger, ou tu l'as fait en d'autres temps? Tu as été correspondant pour d'autres journaux ici en Provence, je ne sais pas.
Oui, j'ai été correspondant pour pas mal de journaux De même que à ce moment-là, les hebdomadaires et même les journaux passaient des comptes, des nouvelles. Et pour moi, qui étais enseignant, c'était beaucoup plus facile à placer qu'un roman. Je n'ai pas toujours le temps de le dire. Mais j'ai écrit également, alors je te dis en vrac, hein, pour le Méridional, pour ensuite pour la Marseillaise, pour Dix Matins et pour divers journaux. Et puis de nombreuses nouvelles dans des hebdomadaires.
Il y a le temps des comédiens, théâtre, télévision. Tu as eu un rôle dans Rocambole, on en parlait, puisque tu m'as dit que c'était un des derniers téléfilms, on va dire, de l'époque, qui était tourné en noir et blanc, alors que parallèlement, il y avait un peu de jalousie là aussi, puisqu'on tournait Thierry Lafond en couleur. Et je crois me souvenir que tu as composé un petit précis d'expression corporelle, d'art dramatique et de théâtre pour tous aux éditions Autre Temps.
Oui, la télévision, je me suis bien amusé, puis ça a amené un petit peu de beurre sur les épinards, mais j'en ai fait très peu.
C'était en quelle année, au début des années 60, ça ?
C'est ça, oui. C'est lorsque j'étais revenu d'Algérie, en 59, quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai fait beaucoup, et ce qui m'a passionné, c'est la radio. Alors, j'étais dans les années 60 aussi.
On veut dire ton travail à l'ERTF, à RTL, France Inter, Conte Provençaux. Puis, je le cite quand même, à la télévision pour France 3, le mystère de Fonce-Grive en collaboration avec Raoul Curie. Déjà, ce nom, le mystère de Fonce-Grive, c'était quoi ce mystère? Tu ne veux pas nous le dévoiler là maintenant?
Oh, c'est une histoire que m'avait racontée Giono, où... il imaginait que dans une ville, d'ailleurs il a repris dans un de ses romans, mais cette histoire-là, on l'avait déposée, et puis il y a quelqu'un qui, comme par hasard, a eu la même idée.
Un petit peu comme là.
Oui, oui. Alors on a protesté, et du coup ils l'ont enregistré avec Rélis et... Et bon, son nom m'échappe. Bon, passons. Et il a été tourné dans la région d'ailleurs, et notamment à Rian. Et on ne l'a jamais diffusé.
C'est encore un inédit.
Il doit être dans les... Ce sont les mystères. Je suppose que c'est parce que...
Ça fait partie du mystère de
France. Oui, je pense... Oui, exactement. je suppose que c'est parce que le premier avait été diffusé, qu'on se sentait gêné aux entournures.
On ne voulait pas faire au Bon, avant de nous installer dans l'ambiance d'un Noël traditionnel en Provence, hors Jean Giono, le mage du Contador, bien sûr, que tu apprécies énormément comme moi, quels sont les écrivains du cru, ils ne se fâcheront pas, hein, que tu respectes le plus, j'en cite quelques-uns, Marie Moron, Thie Monnier, Henri Bosco, Pierre Magnan.
Eh bien oui, tu as tout dit.
On doit l'oublier, certainement.
Oui, bien sûr, mais enfin, je ne les connais pas. Il y a Maurice Peset, par exemple, qui a écrit sur la Provence.
Et Ré, qui est aux auditions entre-temps, occupe toute une page du dernier catalogue. Alors, lui, Jean-Claude Ré, il a fait
un moulin à écriture. Ah oui, non, mais ça, ce sont des collègues, tu sais, là, je ne me permettrai pas. Non, je ne veux pas faire de... ce sont les éditions Entre-temps, bien sûr, il y a actuellement, tu voulais dire. Non, moi, je pensais
effectivement, je parlais bien de ce type d'écrivain. D'antan, on va dire, des écrivains qui ont bercé ta jeunesse, qui ont pu t'inspirer.
Voilà.
Un fil conducteur pour toi, ta façon d'écrire, je n'en sais rien, quoi.
Non, je ne peux pas dire que ça a été un fil conducteur. Je les respecte beaucoup, en particulier Pierre Magnan, qui va écrire la préface pour le troisième volume, qui est pour moi plus qu'un ami, un frère. On est né à... Quelques temps d'intervalle, il est né dans la maison à côté, donc nous sommes toujours connus.
Il a fait des infidélités, puisqu'il a fait quelques kilomètres, puisqu'il est du côté de Fancal.
Il a tout à fait raison, tout à fait raison.
Il a progressé de 10 ou 15 kilomètres.
Il a tout à fait raison, parce que c'est Manosque qui nous a fait des infidélités, c'est pas nous qui avons fait des infidélités.
Maurice, rentrons pas dans cette polémique, juste une petite parenthèse.
Il y a peu, nous causions ensemble de l'affaire Gaston Dominici, du massacre de la famille anglaise de Drummond, je rappelle pour les plus jeunes, en août 1952, dans les solitudes de la Grande Terre, près du village de Lurce, sur la nationale qui court de Manosque à Sisteron, et tu me rappelais le trait de génie d'observation de Jeannot dans son essai sur le caractère des personnages, inclus dans ses notes sur l'affaire Dominici, car il avait assisté en bonne place à tout le procès de Gaston Dominici en cour d'assises de Digne, où le patriarche de Lurce avait été condamné à mort en 1954.
Oui, mais Jeannot a écrit là-dessus une note sur l'affaire Dominici, qui n'est pas son chef-d'œuvre, je dois le dire, mais qui est suivie par une excellente étude sur le caractère des personnages. Voilà, alors le caractère des personnages, ben, lui, il avait tout compris. Dominici, le père, qui était né d'ailleurs d'une... C'était un enfant naturel,
je pense.
Oui, d'origine. Enfin, autant...
Son enfance, c'est dans le village de Rousset.
Oui, non, mais attends. Auparavant, il n'avait pas connu son père. Sa mère était ce qu'on appelait alors une fille-mère, qui était plus ou moins femme de charge à la prison de Digne. Il est né à la prison
c'est
de
incroyable.
Digne. Tu vois, c'est incroyable.
Et, il était le Bérousset, oui.
Et il était comme il avait travaillé très durement. Il était donc très très dur. Alors Jeannot ne tire pas de conclusion sur le meurtre lui-même. Il essaie simplement d'expliquer le caractère de ce paysan basalpin qui ne parlait que ce qu'on appelait à l'époque le patois, c'est-à-dire la langue provençale, la lingua nostra, et qui ne comprenait pas du tout ce qu'on lui disait pendant le procès. Comme disait,
il y avait des mots où il y a des ambiguïtés, il répond complètement à côté parce que la signification est autre pour lui.
Mais évidemment, il avait un vocabulaire de français de 300 mots, quelque chose comme ça. Jeannot fait des remarques. Il y en a une, il faut absolument que je te la dise. Il constatait pendant que cette famille des Atrides se disputait, qu'on parlait de choses extraordinaires, que le président du tribunal tapait sur la table, n'est-ce pas ? Et il voit la Bru qui était en train de lire. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle lit ? Qu'est-ce qu'elle est en train de lire ? Ça doit être passionnant pour qu'au milieu de tout ce ourvari, alors que la vie de certains de ses parents est en jeu, il s'approche et elle lisait un roman de gare, quelque chose comme Les deux orphelines, tu vois, ou Flétrie et Violet, enfin, et un truc comme ça.
Oui, on pourrait trouver l'équivalent de maintenant, mais on va taire le nom, on y ferait de la publicité à ce Jean-Louis. Bon, enfin, eh bien, on pourra dire que c'est le général de Gaulle, je pense, qui a gracié Gaston Dominici. C'était en 1960, il me semble, 58 ou 60, à sa venue au pouvoir. Et Gaston Dominici est mort de sa belle mort au début des années 60, 64, 65, je ne me souviens plus vraiment. Mais il avait près de 90 ans, me semble-t-il.
Oui, mais il était sorti de... C'était un mort-vivant quand il est sorti de prison. Maintenant, ça fait partie... Vous savez, les drames paysans, on ne peut pas... Il y en a eu d'autres où on ne connaîtra probablement jamais la vérité.
Mais enfin, à mon avis, ça se passe dans un périmètre très restreint. Et les histoires de résistance dont on a parlé, plein d'histoires qui sont venues de maraudeurs qui étaient là par hasard. Je crois qu'en fait, le secret de la Grande Terre, il y restera avec la Grande Terre qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Mais je crois que l'un des membres de cette famille n'y était pas pour rien. Allez, on s'arrêtera là parce que c'est assez particulier. Alors, si nous parlions quand même du sujet principal maintenant, de Noël traditionnel en Provence, qui est autre chose que de remplir caddie de victuailles achetées en grande surface. C'est autre chose que des sapins du Nord et des guirlandes électriques, le tout posé sur nos places ou dans les rues de nos villes provençales. C'est autre chose qu'une débauche alimentaire de cadeaux surconsommés afin d'être en azimut avec l'économie libérale et provoquer le sourire aux lèvres des commerçants comptant leurs caisses le soir. Noël, c'est dans la religion qui est nôtre, avant Pâques, la fête la plus symbolique et la plus importante de l'année. Elle commence à Lavaine, le 4 décembre, fête de la Sainte Barbe. Tu vas me parler justement d'où le blé et les lentilles qu'on plante ce jour-là.
Oui, bien sûr, c'est la fête de la naissance de Jésus, bien sûr, mais qui coïncide avec la renaissance de la lumière et qui symbolise le flux de vie qui s'éveille dans la nature. Et c'est ce blé ou ces lentilles que l'on plante pour la Sainte Barbe, ils viendront de chaque côté de la crèche pour mettre un peu de verdure, un peu de gaieté avec les bougies, mais ils seront également sur la table, en, symboliquement pour marquer la renaissance du printemps.
Et puis d'ailleurs, je pense que dans certains coins de Provence ou même de partout, on le replantait aussi dans les champs pour, dans l'espoir justement qu'il y ait encore une meilleure récolte.
C'est vrai, hein, c'est vrai.
Alors les crèches, dès les siècles du début du christianisme, des représentations picturales, des fresques, puis sculptées vont faire leur apparition pour célébrer la nativité de Jésus. Les crèches virent le jour dans tous les pays modelés par cette religion. Tous les matériaux seront utilisés, le bois, j'en cite quelques-uns, le liège, la pierre, le carton, les coquillages, le plâtre, l'argile, la cire, le verre, la pâte à sel, la pâte à pain. Certains spécialistes, et tu le mentionnes dans ton livre, estiment que c'est Saint François d'Assise qui, en 1224, aurait mis en place la première crèche vivante au cours d'une messe donnée dans une forêt des Abruzzes. Nos théâtrales pastorales provençales en sont, semble-t-il, une variante locale.
Oui, c'est vrai, les crèches d'église, d'abord, ce fut la première représentation, nous viennent d'Italie, elles apparaissent en Provence dès la fin du XIIIe siècle, mais elles se limitaient à la représentation de l'étable, et elles reprenaient à la lettre le texte évangélique, qui ne comprenait que les gens et les bêtes cités dans le récit, c'est-à-dire la Sainte Vierge, Saint Joseph, le pitchoun que l'on mettait sur la paille quand minuit sonnait avec l'âne et le bœuf.
Alors il y a le pastrage, les messes chantées, orchestrées, les plus réputées sont celles des Baux de Provence et de Saint-Michel de Frigolet à côté de Gravesonne.
Oui, ça fait partie de ce que je te disais, ce sont les crèches d'église. Et ensuite, on est arrivé aux crèches familiales.
Et voilà, les crèches familiales avec leur village provençal, avec leurs centons. Mais avant les centons, il y avait quand même les centibènes, ce qui est traduit par bossin, qui deviendront les centons habillés. Et je crois que c'était des colporteurs qui... Après le Moyen-Âge, à la Renaissance, les Vendées venaient d'Italie.
Hein, c'est ça, c'est des colporteurs italiens. C'était les centibelli, oui. Mais ça n'avait pas finalement grand-chose à voir avec contrairement à ce qu'on... À cause du nom, hein, similitude, centibelli, centon. Mais en réalité, c'était la représentation de saints. Et, de saints, S-A-I-N-T-S, bien sûr. Mais avec représentation du pape aussi, tu vois. C'était pas tellement en rapport.
Oui, c'était un business de l'époque.
Voilà,
exactement. On va en arriver au centon qui nous intéresse. Alors, la fabrication des centons avec les moules d'argile, d'abord.
Ben, ce nom de Santon en provençal, Santum, un petit saint, c'est vrai, n'apparaît qu'au début du 19e siècle. Et avant, c'était les centibelles, comme nous venons de le dire. C'est à peu près Marcel Provence qui accepte l'étymologie latine, qui nous donne en provençal Santum, mais qui a pour équivalence Santoni en italien, je ne sais pas si je prononce bien, Santio en portugais et Figurita en espagnol. Voilà. Donc, avant ce que nous les connaissons aujourd'hui, d'être de véritables petits chefs-d'œuvre, ce furent simplement des petits personnages fabriqués avec l'argile d'Aubagne.
Tout simplement. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des centoniers célèbres. Je vais les citer parce qu'on a tellement de questions encore. Alors, il y avait Jourdan, Roubaud, Julien, ça c'était jadis, Carbonel, Jouglas, Escoffier maintenant, ou peut-être tu voudrais ajouter quelque chose. Puis je voudrais surtout que tu nous fasses un panorama des différences en ton. Allez, tu en cites quelques-uns, tu en cites des dizaines, peut-être des centaines dans ton livre. On est les centres évangéliques, les anges, les animaux, les bergers, les paysans, les métiers de naguère, les habitants des villages. Quels sont ceux que tu préfères? Tiens, voilà.
Bon, alors, pour comment on devient centon, Carbonel, que tu n'as pas cité, d'une, disait d'une motte de terre de Provence rejoindre la légende, les mains du centonnier parlent à nos rêves et à notre mémoire. Et à notre mémoire. Donc, comme je te disais il y a un instant, tout d'abord, il y a les personnages. Légendaire, j'allais dire, c'est pas le terme religieux. Saint Joseph, la Sainte Vierge, Pichou, voilà, et comme bête l'âne et le bœuf. Et puis, grâce aussi au pastoral, ou plus exactement, historiquement, ce sont les pastorales sont venues après. Mais à partir du moment, déjà dans la crèche, on imagine que le Pichou naît en Provence.
Bien sûr.
D'où toute la poissonnière, le pêcheur dans la Provence où nous sommes, c'est-à-dire la Provence méditerranéenne, en Haute-Provence, le paysan, etc., apporte les offrandes.
Oui, donc après tous les petits métiers, voilà. Le meunier, voilà. Le ravi, le rémouleur, l'aveugle.
Exactement. Arnaud Daniel prétend que les centonniers d'Aubagne, Marseille, Aix, Toulon exercent un véritable métier d'art qui les apparente au XXe siècle aux corporations d'autrefois. Et donc toutes les corporations sont représentées. Alors là, attention. On a tendance maintenant à exagérer et à mettre dans la crèche, par exemple, un curé. C'est complètement stupide. En soutane, bien sûr.
Non, mais le visage de...
Mais le curé ou le moine, ça n'existait pas lorsque Dieu est né. Alors ça, c'est très rigolo, parce que dans les crèches publiques, tu sais qu'il y avait des crèches publiques, c'est-à-dire de véritables représentations. Et au début du siècle, vers 1900, ces crèches publiques, c'était un poème. Il y avait une crèche en particulier qui était à la gare Saint-Charles. À la gare Saint-Charles, où la représentation avait lieu. Mais non, mais il y avait le pape. Le pape qui descendait du train, train à l'arrêt, et qui venait bénir le petit Jésus. Il y avait aussi Napoléon Ier qui...
Alors si tu veux, on progresse. Il y a des foires aux centons partout en Provence, Arles, Aix, Toulon, bien d'autres villes, mais c'est celle de Marseille qui est la plus réputée. Et là, tu fais un bel historique, je le rappelle brièvement. La première eut lieu à partir du 4 décembre 1803. Napoléon, tu viens d'en parler, était encore premier consul. Ceci se passait sur le cours Saint-Louis. Il n'y avait que trois centonniers, ça, tu nous étonnes. En 1808, elle est sur le cours Belzunce. Et il faut se rappeler, il y a des gravures qui sont dans ton livre, avec sa statue du cours, le cours Belzunce, de Monseigneur de Belzunce, qui est maintenant posé devant la major. En 1853... la foire se déplace sur le boulevard Nuit, proche de la préfecture. Et c'est en 1882 que J.B. Brochet, c'est le maire, peut-être Jean-Baptiste, maire de l'époque, fait transporter la totalité des baraques en haut de la Canebière, sur les allées de Meillan, qui possédait, je le rappelle parce que j'ai revu les cartes postales, qui possédait alors une très abondante plantation d'arbres, bien plus que maintenant. La foire est annuelle depuis 1897, avec plus de 40 exposants actuellement. Quelques chiffres mentionnés dans ton livre m'ont quand même frappé, Maurice. Le fait qu'il s'était vendu 150 000 figurines en 1855, tu le signales, 180 000 en 1856, et qu'aujourd'hui, avec l'exportation, on dépasse seulement 200 000, la différence me semble faible. Ce n'est pas de l'économie à la chinoise, sans quoi ce serait des millions de centons vendus. Explique-moi pourquoi, finalement. Mais entre 1855 et maintenant, il y a 50 000 centons de plus de vendus, ça ne fait pas beaucoup.
Parce que nous avons de plus en plus de concurrence, puisqu'on s'est aperçu que ça... Maintenant, il y a de multiples villages et même de grandes villes qui se mettent à fabriquer des...
Le rayonnement de celle de Marseille, quand même. Il
a ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais Marseille, je ne sais pas, je ne veux pas faire de publicité pour aucun centenier, mais j'ai visité... un centenier qui se trouve dans le vieux Marseille et j'étais stupéfait de voir que c'était une véritable manufacture au sens du terme. C'était en expédié, il y avait le service expédition qui partait pour les États-Unis, le Japon, etc. Ouais. Ouais, on doit le renouveau du Santon pour une large part au poète Elzéar Rougier qui en fut l'inspirateur avec les Amis des Santons et le chanoine Arnaud Daniel et Marcel Provence et aussi le célèbre affichiste David Delpiane. Je devais le préciser et aussi de dire un mot du Santon habillé. Parce que ça a été une véritable révolution. Et Dieu sait si maintenant c'est entré dans la tradition, dans la constante, le santon habillé. Certes, les poupées ont existé de tout temps, mais le santon habillé, c'est une spécialité marseillaise.
Et bien, une autre spécialité des Noëls traditionnels en Provence, c'est la tradition de la bûche de Noël, le cachofio, qui doit brûler jusqu'au 31 décembre, je me demande comment, on met dans une seule bûche, arrosé d'huile, de vin cuit, voire d'eau de vie de marque, et puis il y a des tas de variantes. Quelques mots là-dessus.
Eh bien, la bûche, enfin, si on...
C'est artificiel, c'est pas possible.
Il faut faire la part des choses. C'est une tradition qui est respectée, qui n'est plus... respectée à l'heure actuelle, mais qui est différente selon... J'en reviens toujours, la Provence est un ensemble composé de sous-ensembles. Giono disait, grosso modo, il y a la Haute-Provence, la Basse-Provence, mais moi, j'élargis encore, je dis, il y a la Provence intérieure, la Provence rhodanienne, la Provence mistralienne, avec la Croix et la Camargue qui sont différentes, il y a la Provence méridionale, enfin méditerranéenne, avec Marseille, je ne parle pas de Nice, c'est à part, et puis il y a la Haute-Provence. Et là, les traditions diffèrent peu de province en province.
Alors, quand la bûche de Noël, le cachofio, est allumé, et bien ensuite, il y a le 24 décembre, le gros souper, le gros soupa. Quels sont les plats principaux qui étaient servis à l'époque?
Le gros soupa, c'était alors, et ça demeure encore traditionnel. Si il y a divers programmes, je te donnerai simplement celui de Frédéric Bisral qui a codifié le menu de ce repas maigre qui devait obligatoirement comporter morue frite, mugeot aux olives, escargot, cardon, salade de céleri, fougasse à l'huile. Voilà.
Oui, là, il s'agit de produits vraiment du terroir, le muge ou le mulet, les salades qui...
Primitivement, le menu comprenait 7 plats maigres en souvenir des 7 plaies du Christ.
Exact. Les 13 desserts, c'est justement le Christ et ses 12 apôtres. Les différences sont importantes d'une région à une autre, même de village à village, mais il y a toujours les 4 mendiants, les pachichois, figues sèches, amandes, noix ou noisettes, raisins secs. Pourquoi? Quel symbolisme? Et les autres desserts? On peut mettre des tas de desserts autour de ça.
Oui, alors là...
Les 4 mendiants, pourquoi?
Les 4 mendiants, mais tout simplement parce que la couleur correspondait, si tu veux, aux habits des moines.
Voilà. Tout simplement. Et donc, on eut les fruits ont ces couleurs qui sont ressemblantes. Et en plus... il y avait toujours à table la place du pauvre qui était...
Ah, toujours, toujours. Mais les 13 desserts, comme tu viens de le dire, il y a diverses... ça varie d'une province à l'autre.
Voilà, nous allons terminer cet entretien remarquable avec l'écrivain Maurice Chevalier dans un instant. Nous allons conclure. Je voudrais rappeler qu'il s'agissait là d'un des... multiples entretiens que nous avons réalisés ensemble et qui avait été enregistré en fait le 15 décembre 2003 et diffusé sur cette antenne en réalité 2 ans plus tard, même un peu plus, puisque ça avait été réalisé donc en 2003 et ça a été diffusé pour Noël 2005, le 23 décembre 2005. Alors, Maurice Chevalier était très prolixe en écriture, en conte, en poésie. Je ne peux pas retracer ici toute sa bibliographie qui commence avec un petit écrit « Présence de nos 20 ans ». Ça s'appelle au Petit Nice. C'était donc en 1942. Et puis Deo de Grida, Fleur artificielle. Nous avons parlé, entre autres, de Giono Amanosque, le Fada. Nous avons parlé de Jean Genet. Il a écrit une biographie importante sur Jean Genet en 2 parties. Hein, L'amour cannibale pour le premier tome et L'enfer à fleur de peau. Noël traditionnel en Provence, dont nous sommes en train d'écouter donc le thème en ce moment. Zidore Angelus, la Casbah d'Alger, la sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui, puis il a terminé pratiquement avec ses fameux 5 volumes que représente donc l'histoire de la Provence à travers de l'Antiquité jusqu'à, on va dire, au-delà de la Renaissance, et il avait l'intention, vous l'avez écouté tout à l'heure, de terminer en 1914, c'est-à-dire à la mort de Frédéric Mistral. Son dernier ouvrage date de 2014, est sorti sur Autre Temps, c'est Vie avec toi, des poèmes et des contes. On écoute donc le final de cet entretien.
Nous arrivons presque à la conclusion autour de ces cérémonies du Noël traditionnel en Provence, mais il y a quand même un élément très important, c'est la messe de minuit.
Oui, ben, la ferveur et l'enthousiasme du peuple pour les fêtes et les traditions de Noël, et particulièrement en Provence, mais pas seulement, ont donné lieu dès le Xe siècle au drame liturgique qui se joue chaque année depuis lors, l'adoration de Jésus dans les tables par les bergers. Eh bien, c'était ce qui se passait pour la messe de minuit. Il y avait le pastrage, c'est-à-dire que les bergers venaient présenter l'agnelet. L'agneau pur et sans tache, symbole de pureté, donc de pureté du bébé, de la naissance, etc., de l'enfant Jésus, bien sûr, et dans une carriole enrubannée, et tout cela avec un habit, avec des habits traditionnels, avec le chant, les danses, tout ce que tu peux imaginer, de couleurs, des Arlésiennes, enfin, etc. Et on offrait l'agneau pur et sans tache. Et au moment de l'élévation, il était de tradition de lui pincer la queue pour qu'il bêle, ce qui amusait beaucoup les gens, évidemment.
Alors, à l'heure actuelle, dans la région marseillaise, je crois qu'il faut quand même citer la messe de minuit d'Allo, où justement il y a des défilés,
voilà.
Il y a les agneaux qui sont menés par les bergers, et il y a 5, 6, 7 000 personnes qui se pressent pour assister.
Oui, maintenant, il y a... ça a été un peu repris à divers... Les Baux, bien sûr, comme tu viens de citer... à l'eau, et malheureusement, pourquoi c'est surtout touristique.
Exactement. Tant qu'il n'y a pas le marchand en bas de la montée de l'église d'Allo qui vend de la barbe à papa, ce ne sera pas trop grave. L'origine du choix du 25 décembre pour célébrer Noël, personne n'est sûr de la naissance de Jésus à cette date. Les docteurs
non, bien sûr.
Théologiens fêtaient d'abord cela le 5 ou le 6 janvier, puis en 354, c'est le pape Liber qui imposa cette date. On remarquera au passage que des fêtes païennes existaient bien avant, au moment du solstice d'hiver le 21 décembre, ainsi que des fêtes romaines pour l'anniversaire de leur chef.
Oui, c'est vrai. Le jour même de Noël n'a en Provence qu'une signification spirituelle, caractérisée par les offices religieux et maintenant de plus en plus par le plantureux dîner de Noël, généralement pris en famille, et à la fin duquel apparaissent ces fameux 13 desserts dont nous ne dirons pas la composition parce qu'elle est très variable.
Oui, c'est vrai qu'ils peuvent être, au lieu d'être 13, ils peuvent être 20 ou 30 maintenant. Et ça fait plaisir au supermarché d'Évituailles, entre
autres. Et la bûche glacée, maintenant.
La bûche glacée. Alors, on va rappeler que ton livre est présent chez tout bon libraire. C'est Maurice Chevalier, Noël traditionnel en Provence, édition Autre Temps, qui est un éditeur régional, dont j'ai en main le catalogue 2005 et qui comprend bien d'autres livres autour de la Provence. On a parlé de Jean-Claude Rey, mais il y a également des Noëls traditionnels, c'est le tien. Mais il y a les nouveaux contes de René Provence, il y a Le Bonheur en Provence d'André Bonafosse, Mais Noël en Provence, toujours de Bonafosse, Histoire vécue de ma Provence de Pierre Roumel, Chronique de ma Provence de Pierre Roumel, deux volumes sur le grand livre de la Provence qui seront suivis l'an prochain d'un troisième. Je rappelle que tu as obtenu le prix d'histoire de sociologie de l'Académie française pour le premier volume de l'Antiquité au Troubadour. Et puis maintenant, en conclusion, il reste à dire que dans l'espoir que cette tradition, l'une des plus belles de notre chère Provence, demeure viscéralement un point d'ancrage fort pour ses fils et ses filles. Maurice.
Eh bien, la conclusion, tu viens de la donner. Je te remercie d'avoir passé cette heure avec les auditeurs de la radio que tu vas nommer.
Radio Galère, bien entendu, 88.4. Je te souhaite un joyeux Noël. Et comme on dit ici en Provence, à l'Anquévin, Maurice.
À l'Anquévin, c'est si pas mal, c'est gain pas mal.
Merci, Maurice. À bientôt.
Venez d'écouter la 180e émission de Hockey des Cultures sur le 88.4 de Radio Galère au sujet d'un entretien réalisé avec Maurice Chevalier, historien, poète discret de la Provence, qui est décédé cette année, le 7 mars 2020, à l'âge de 98 ans. C'était intéressant de le signaler. Donc c'était une production réalisation Edgar Prato avec une technique son Sidi Diallo. Nous souhaitons tous les deux une excellente week-end et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Dixie.